7h18. Comme chaque vendredi, le monde selon Hubert Vidrine. Bonjour Hubert Vidrine.
Bonjour.
Alors, la mort d'Hervé Gourdel mercredi a horrifié la France jusqu'au plus haut sommet de l'État. Au lendemain de l'assassinat de ce randonneur français par un groupe djihadiste affilié à l'État islamique, François Hollande a donc réuni hier un conseil de défense à l'Élysée. Objectif, fixer les buts assignés aux opérations militaires menées pour l'heure en Irak contre les forces de l'EI et renforcer la protection des Français. Sur le premier volet, Hubert Vidrine, que pensez-vous que nous allons réussir à faire, dans combien de temps? Et est-ce que cette coalition, pour l'instant, sévit en Irak, peut également, comme il semblerait que ce soit le cas, se projeter aussi sur la Syrie?
Oui, au-delà du sentiment de compassion profond que l'on ressent devant les atrocités, notamment l'assassinat de cet alpiniste, il faut se rappeler aussi qu'il y a beaucoup plus de victimes arabo-musulmanes de ce pseudo-État, pseudo-islamiste, et de l'ensemble des terroristes que l'ensemble des pays engagés dans la coalition et même les autres.
Des Touaregs, hein, par exemple, dont on parle peu, mais qui sont très régulièrement assassinés par ce même État islamique.
Aussi, en plus, dans d'autres régions. Oui. D'autre part, l'ensemble des pays dans la coalition, qui sont une quarantaine, politiquement en tout cas sur le papier, sont tous menacés, comme en plus ces groupes font une sorte d'amalgame, ce qu'ils appellent les croisés ou l'ensemble des occidentaux, en fait toutes les populations sont potentiellement concernées. Au-delà de ça, qui est atroce, il faut se demander toujours si l'objectif est le bon, si ça peut marcher, quel problème ça va nous poser. Donc on est engagé dans quelque chose de très long. Donc l'objectif, moi je redis ici que face à ce qu'est ce phénomène, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et donc je pense que Obama a eu raison de lancer un mouvement de très vaste coalition. Je pense que la France est courageuse en y participant, et que si elle ne participait pas, elle ne serait pas plus protégée en réalité.
Oui, certaines voix, tout de même, vous les entendez, s'élèvent pour dire, pardonnez-moi pour employer une expression populaire, que la France, d'accord, s'engage, mais qu'on n'a pas les reins solides, qu'on n'a pas les moyens de s'engager sur ces terrains-là.
Il y a ceux qui peuvent penser qu'on serait peut-être protégé si on ne participait pas en restant tranquille, mais ce n'est pas le cas. De toute façon, il y a un antagonisme.
Reprenant l'engagement de Chirac pour la première guerre en Irak,
ça n'a rien à voir.
Mais la comparaison est faite. Hein,
oui, mais à mon avis, c'est totalement infondé. Ça n'a rien à voir avec la décision arbitraire de l'administration de W. Bush d'aller en Irak, alors qu'il n'y avait pas du tout une question de sécurité intérieure, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni nulle part, uniquement pour renverser Saddam Hussein. Ça n'avait aucun plan pour après. Ils sont d'ailleurs un peu responsables de l'enchaînement qui a suivi. Donc ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer du tout, à mon avis. Donc je crois que tout ça est justifié. Malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut le faire. Après, il faut le faire sur la base de la coalition la plus large possible. Ce n'est pas que la question des Occidentaux. Donc, le fait qu'il y ait une quarantaine de pays, dont énormément de pays arabes, qui essaient de surmonter leurs dissensions, voire de pays musulmans, puisque la réintégration de la question de l'Iran se pose, ça va s'accélérer. Vous allez voir que ça va s'accélérer. On ne peut pas avoir une coalition qui fonctionne au-delà des frappes en Irak et en Syrie, comme le font les Américains. Je lis que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, reconnaît que la question des frappes en Syrie est posée, c'est évident, puisque la tête du système est là, en fait. Après, la question va se poser de savoir, une fois que la fourmilière aura été frappée, qu'il y aura des combattants de pseudo-État islamiste dans tous les coins qui seront partis, qu'est-ce qui se passe si, sur le terrain, il n'y a pas une construction politique qui se substitue à ce vide qui a permis qu'il se crée? On va revenir au point de départ. Donc la question de savoir comment est géré l'Irak après, de façon non sectaire, une sorte d'accord, ne serait-ce qu'implicite, avec l'Iran. Il faut que la Turquie, qui mène un double, voire un triple jeu, soit obligée par les uns et les autres, et pas que par les Occidentaux, mais également par les pays arabes concernés, d'avoir un jeu différent. Et quand on en reviendra à la question syrienne, vous verrez qu'on ne pourra pas écarter de la main le rôle de la Russie. Même si on est dans une sorte d'impasse stérile en Ukraine, même s'il y a quelques signes de désescalade, peut-être de sortie de crise au bout du compte, etc. Bon. Donc c'est ça la question de la coalition. Comment va-t-elle durer? Et qu'est-ce qu'est leur autorité politique pour arbitrer, justement pour obliger la Turquie à avoir un jeu plus cohérent et pour obliger les Saoudiens vraiment à accepter que les Iraniens jouent un rôle, et jusqu'à quel point? Et comment ça sera géré sans faire diverger, sans neutraliser complètement la négociation sur le nucléaire iranien qui doit se poursuivre par ailleurs. Donc vous voyez, ça oblige chacun des participants, c'est ça la question de fond. Au-delà des horreurs qui se sont produites, il y en a malheureusement d'autres dans différents pays. C'est ça la question de la coalition. Il y a une dimension politique qui est considérable.
Et qui oblige les uns et les autres à se parler, et surtout, comme vous le dites souvent, parfois même les ennemis, au fond, à se mettre autour de la table.
Oui, parce que
la diplomatie, c'est ça, c'est parler avec son ennemi.
La hiérarchisation des ennemis change, en fait. Si c'est vraiment l'État islamique qui est le problème numéro un, je le crois, moi, parce que ça devient la base arrière, le sanctuaire mondial par rapport à l'ensemble des autres groupes qu'on trouve dans la péninsule arabique, au Yémen, qu'on trouve en Libye, qu'on trouve, etc. Donc il y a une espèce de logique qui fait qu'il faut réordonner tout ça, mais évidemment, ça amène à bousculer des postures intransigeantes, souvent moralement justifiées, mais en fait, qui ne sont pas forcément efficaces, mais qui ont été prises morceau de sujet par morceau de sujet. Comme par exemple sur la Syrie.
Est-ce que
qu'il y a un enjeu russe dans tout ça?
Alors, est-ce que certains ont pu l'anticiper, entre guillemets, ce retournement possible? Évidemment, certains, quand je dis certains, je pense à Vladimir Poutine, hein, à la Russie. Est-ce que le jeu de la Russie, qu'on a longtemps condamné, notamment avec la Syrie...
Il ne l'a pas fait pour ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, il va tirer son épingle du jeu et se retrouver un des maîtres clés de cette histoire?
Il peut se retrouver un des éléments, aussi bizarre qu'il puisse paraître, un des éléments d'une solution future. Mais il ne l'a pas fait pour ça. Il l'a fait au départ parce que la Syrie, c'était le dernier point d'implantation qui restait aux Russes dans la région du Proche-Orient, que la base de Tartous était vitale pour eux, plus les ventes d'armes. Bon, elle est vitale pour leurs sous-marins, par exemple, des choses comme ça. Et à mon avis, ça n'a pas été assez intégré par les différentes diplomaties occidentales au tout début de l'affaire syrienne, de même qu'on ait sous-estimé la peur qu'avaient les minorités, notamment chrétiennes, en Syrie, d'un régime qui serait après Assad, qui serait encore pire, encore plus atroce que celui-ci, qui est déjà beaucoup bon. Donc il peut se retrouver en position à condition que les Occidentaux aient anticipé là-dessus, se soient résignés ou aient accepté qu'il joue un certain rôle, et c'est peut-être une façon pour lui d'ailleurs d'être plus coopératif dans la sortie de crise Ukraine-Europe-Russie. C'est possible. Donc vous voyez, une question iranienne, une question syrienne, une question russe, et on est qu'au début de tout ça.
Dernière question, et je sais que ce n'est pas votre sujet, mais tout de même, est-ce que dans ce cas-là, la diplomatie peut faire fi des questions, ou en tout cas prendre en compte d'une manière paradoxale, ce qui peut être en conséquence, ce qui peut avoir pour conséquence le danger ou la sécurité intérieure?
Mais ça, c'est un choix qui est fait dans la douleur et la tristesse, mais avec courage par les différents gouvernements. Je veux dire, on peut pas, il n'y a pas de solution qui nous donnerait une sécurité intérieure à 100%, qui n'existe pas, et notamment pas la passivité. Mais il est vrai que, comme je lisais, de plus en plus de musulmans dans le monde entier s'expriment en disant « pas en mon nom ». Vous avez vu ce mouvement ?«
Not in my name », il est lancé à Londres hier.
Ouais. L'islam, ce n'est pas ça, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais il ne faut pas que ce soit simplement quelques imams courageux. Il faudrait que ça vienne du monde entier, de l'ensemble du monde, 1 milliard, 300 ou 400 millions de musulmans. Ça peut, disons, modifier un peu les données inquiétantes de la sécurité intérieure dans tous les pays concernés, pas que chez nous.